À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Claudine Monteil, je suis femme de lettres, historienne, ancienne diplomate et féministe.
Quatrième épisode, les années MLF. Bonsoir Claudine Monteil.
Bonsoir Caroline Brouet.
Hier, vous nous avez parlé des sœurs Beauvoir, de Simone, d'Hélène. Ce soir, j'aimerais que vous nous parliez des 400 coups que vous avez fait avec Simone de Beauvoir, et notamment les actions au sein du mouvement de libération des femmes dans les années 70, et peut-être des batailles que vous avez remportées, sûrement même des batailles que vous avez remportées. C'est le comment aussi qui nous intéresse aujourd'hui. La première action de lutte pour les femmes quand vous avez démarré avec le MLF et quand le MLF a été créé, c'est évidemment le combat pour l'avortement. Un combat qui fut long, qui fut difficile, qui a commencé comment ?
Ça a commencé vraiment par le manifeste et par ces réunions le dimanche après-midi chez Simone de Beauvoir, dont nous avons déjà parlé. Et c'est là où vraiment c'était notre priorité. Ne l'oublions pas, les quelques femmes du MLF avaient tout un emploi, elles travaillaient toute la semaine. Moi-même, j'étais étudiante, donc nous étions très peu nombreuses avec quasiment aucun moyen. Et donc, notre priorité, c'était d'abord de lever le tabou du mot « avortement ». On n'imagine pas à quel point le mot « avortement » était un mot tabou. Il avait été évoqué dans le deuxième sexe, et après, c'était de nouveau devenu tabou, puisque c'était un crime d'avoir un avortement, même clandestin. Enfin, c'était un crime, on pouvait aller en prison. Ce qui fait que dans les familles, on n'en parlait pas. Donc, notre priorité, c'était que le mot avortement devienne un vrai problème de société, qui soit donc évoqué. Donc, nous avons pensé à ce manifeste. Ce manifeste, c'est d'abord une journaliste du Nouvel Observateur, Nicole Mouchnik, qui a eu cette idée avec un autre journaliste du Nouvel Observateur, Jean Moreau. Et Nicole Mouchnik, avec Anne Zelinski, qui est une des fondatrices du MLF et une très bonne amie, Anne Zelinski et Nicole Mouchnik sont allées voir Simone de Beauvoir et ont proposé de rédiger ce manifeste. Et Simone de Beauvoir, ce que j'ai pu constater pendant 16 ans, c'est qu'elle avait un esprit extrêmement rapide et qu'elle était une visionnaire. Elle a vu immédiatement l'impact que cela aurait parce qu'elle avait elle-même signé le manifeste des 121 pour inciter les soldats français à ne plus lutter contre les indépendantistes algériens dans le cadre de la décolonisation. Donc elle a immédiatement pensé que ça aurait un écho retentissant. C'est pourquoi le dimanche suivant, chez Simone de Beauvoir avec Gisèle Halimi, nous avons commencé à discuter comment organiser ce manifeste, comment le préparer. Nous avons chacune, enfin pour ma part, je suis partie avec un petit papier et je suis allée à la réunion à l'Assemblée Générale du MLF qui avait lieu aux Beaux-Arts et nous avons signé ce manifeste sur un papier quadrillé en riant, en se disant que c'était une bonne histoire, qu'on allait bien s'amuser et que la société allait voir ce qu'elle allait voir.
Vous vous levez, Claudine Monteil, pour aller chercher. Il est pas loin, hein. Il est dans le premier tiroir de votre buffet. Voilà, vous venez de sortir le Nouvel Observateur avec ce manifeste qui a laissé des traces indélébiles.
Alors, nous avons travaillé sur la rédaction de ce manifeste, mais je dois vous dire que, in fine, la rédaction finale, c'est Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Alors, il faut vous dire que les signatures, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que Simone de Beauvoir, par exemple, n'a pas laissé le choix à toutes ses copines de sa génération à signer le manifeste. Elle a téléphoné à sa sœur, Hélène, et elle a dit « Au fait, je rajoute ton nom sur un petit manifeste que nous allons publier. » Et son mari, quand même, qui était diplomate et haut fonctionnaire, lui a dit « Mais enfin, on va croire que vous avez eu des avortements. » Donc, ça n'a pas été si simple que cela. Ce qui a été aussi très important et que l'on doit notamment à Agnès Varda et à Nadine Trintignant, ce sont les signatures, et à Delphine Seyrig bien sûr, ce sont les signatures des grandes personnalités. Mais il y a eu des discussions féroce. Ça ne s'est pas passé en une journée, car Jean Daniel, qui était alors rédacteur, directeur du Nouvel Observateur, a envisagé de publier le manifeste avec que des femmes célèbres et aucune femme inconnue. Or, c'est vraiment l'idée du MLF, c'est que les femmes les plus brimées dans toute cette affaire, ce sont d'abord les femmes inconnues. Et que, en plus de cela, les avortements clandestins dans les pires conditions, c'était les femmes qui n'avaient pas les moyens financiers de se rendre à Londres, ou de se rendre en Suisse, ou de se rendre aux Pays-Bas. Donc, véritablement, c'est aussi une affaire de classe sociale, l'histoire du manifeste. Donc, il y a eu pas mal de discussions. J'ai accompagné Simone de Beauvoir. Jean Daniel arrivait en retard. Simone de Beauvoir ne supportait pas que l'on soit en retard. Elle a failli partir et ça a failli faire tout capoter le manifeste. Enfin, vous voyez, les coulisses ont été assez mouvementées.
Et pour la petite histoire, donc vous étiez vous la plus jeune des signataires.
Oui, la plus jeune. J'avais 21 ans.
Vous ne vous étiez pas faite avorter.
Non.
Et votre père en a été furieux parce qu'il vous a dit que vous aviez menti.
Oui, alors je suis donc j'ai 21 ans et je ne mesure absolument pas ce que je suis en train de signer. Il faut quand même bien dire que c'est pour cela que j'ai la plus grande admiration et le plus grand respect pour les 342 autres femmes qui étaient plus âgées que moi et qui savaient vraiment ce à quoi elles allaient faire. Mais mon père était absolument mes parents étaient bouleversés parce que je voulais devenir femme de lettres et historienne et diplomate. C'est-à-dire entrer dans la fonction publique et que pour eux, c'était terminé. Je ne pourrais jamais entrer dans la fonction publique. J'avais 21 ans. Ils se sont dit, Claudine a brisé sa vie. Donc, ça a été pour eux véritablement un tsunami. Et quand mon père a osé m'en parler, j'étais aux États-Unis à ce moment-là quand le manifeste est paru, donc quand je suis revenue, mon père était livide, et je lui ai dit, mais papa, je n'ai jamais eu d'avortement. Tu signes quelque chose que tu n'as pas fait, mais c'est un mensonge, votre manifeste. Je lui ai dit, mais papa, il y a à peu près 20% des femmes qui n'ont jamais eu d'avortement qui ont signé le manifeste. Mais c'est une question de solidarité. Ah oui, écoute, ton manifeste, il vaut rien. Et il est parti en claquant la porte, retourné à ses mathématiques. Il valait mieux qu'il réagisse ainsi, parce qu'au Collège de France, ses collègues lui ont dit, c'est vraiment Claudine qui a signé ce manifeste? Et il a dit oui. Et ils lui ont demandé, mais t'étais au courant? Non. Voilà, enfin, c'est pour dire, lui a réagi de manière formidable, et ma mère aussi, parce que des femmes ont perdu leur emploi, il ne faut pas l'oublier, des femmes ont perdu leur emploi, des femmes ont perdu leur famille, il y en a un certain nombre qui ont eu véritablement leur famille brisée. Enfin, ça a été quelque chose de difficile, mais nous étions très heureuses du succès, parce que véritablement, en 48 heures, ce mot tabou était partout sur les lèvres, et surtout les grands-mères, c'était les grands-mères qui ont joué un très grand rôle, qui allaient dans leur chambre, qui emmenaient leurs petites filles, et qui avouaient à leurs petites filles qu'elles avaient eu 3, 4, 5 avortements, parce qu'elles n'auraient pas pu, sinon, nourrir leurs enfants, et bien donc, il y a eu un début de prise de conscience. Mais dans nos réunions du dimanche après-midi, nous étions bien évidemment conscientes que ça ne suffisait pas. Nous voulions vraiment changer la loi. Que faire? Comment faire? Et nous avons agi, la force du MLF, c'est que nous avons agi de manière spontanée en fonction de ce qu'il se produisait. Nous avons d'abord préparé une manifestation en novembre 71, où nous avons préparé une manifestation où je portais justement le cercueil, où il y avait marqué les milliers de femmes mortes d'avortement clandestin en France. Ce cercueil, c'était le symbole de toutes les femmes mortes d'avortement clandestin. Et puis est arrivé, nous avions une jeune femme qui était là, Claude Lefebvre, qui était vraiment depuis le début au MLF avec nous, et Claude gagnait sa vie. Enfin, comme elle pouvait, elle était assistante dans le foyer des filles mères du Plessis Robinson. Et il faut vous dire que c'est un des événements qui a le plus marqué ma vie. Pourquoi ? Les filles mères du Plessis Robinson, quand vous étiez une jeune fille lycéenne ou collégienne et que vous étiez enceinte, vous étiez automatiquement exclue de l'enseignement secondaire, des classes, des écoles, parce que vous pourriez donner un mauvais exemple aux autres jeunes filles. Non seulement vous étiez exclu, mais vous n'aviez pas le droit de revenir à l'école et au lycée après avoir accouché. Ce qui signifiait que, de facto, votre vie était brisée. Or, la plupart des jeunes filles qui étaient au foyer du Plessis Robinson étaient toutes de classe sociale dite populaire, il faut le dire. C'était pas les classes favorisées, parce que sinon elles auraient encore pu avoir des avortements à l'étranger, dans des meilleures conditions. et c'était souvent violé par leur père, violé par leur oncle ou violé par le meilleur ami de leur père. Donc c'était véritablement des cas d'inceste, des cas de viol, et il y avait très peu de jeunes filles qui étaient simplement enceintes du jeune homme qu'elles aimaient. Et là, elles étaient enfermées, elles n'apprenaient que la couture et à repasser, et ensuite, elles n'avaient que 2 heures par semaine où elles avaient le droit de sortir du foyer du Plessis Robinson, 2 par 2, ce qui fait que vous voyez des enfants, des gamines, qui avaient des ventres comme ça et qui se faisaient insulter dans les rues du Plessis Robinson. Un jour, l'une d'entre elles, précisément à ce moment-là, quand on venait de signer le manifeste, on venait d'organiser ça, l'une d'entre elles, elle était amoureuse du garçon dont elle était enceinte. Elle avait 15 ou 16 ans, enfin, elle était très jeune encore. Et elle ne l'avait pas vue depuis 3 mois. Donc, entre copines, parce qu'elles étaient très solidaires entre elles, elles disent, écoute, c'est très simple, on va organiser un événement pour que ton copain puisse entrer discrètement. Il faut vous dire que le foyer était situé en haut d'une colline entourée d'arbres et que ça faisait plutôt film d'horreur de Hitchcock comme cadre. Elles habitaient dans un dortoir. Elles étaient toutes dans des dortoirs avec des lits absolument étroits, épouvantables. Donc, elles se mettent toutes en bas dans la salle commune. Donc, le copain monte, la jeune fille aussi. Et la directrice, qui était très méchante, elle se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Elles sont toutes en bas. Il n'y en a pas une qui se repose sur le lit alors qu'elles sont enceintes. Bon. Donc, la directrice monte et naturellement découvre le jeune homme et la jeune fille ensemble, en train de s'aimer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un télégramme au père. N'oublions pas que le père était le chef de famille. Elle envoie un télégramme au père immédiatement. Venez chercher votre fille qui n'est que... Enfin, vous imaginez les propos. Et quand le père arrive, il commence à cogner sa fille, à la cogner au ventre. Elle est enceinte. Il la fait tomber, il la tire par les cheveux. Il continue à lui cogner dessus. Et là, Claude, qui travaillait dans ce foyer, qui était féministe avec nous, qu'on voyait le dimanche... Claude a voulu protéger la jeune fille. Et à ce moment-là, la directrice l'a prise comme ça, très violemment, et lui a dit « on ne s'interpose pas entre un père et une fille », laissant la jeune fille à moitié inanimée par terre devant toutes les jeunes filles enceintes, absolument terrorisées. Alors, comme elle connaissait Claude, puisque Claude travaillait avec elle, elles ont appelé au secours au MLF, et donc le dimanche suivant, nous avons occupé le foyer du Plessis Robinson, un dimanche matin de bonne heure, avec Simone de Beauvoir. Et là, s'est passé quelque chose d'historique que je n'oublierai jamais. On est arrivé avec des journalistes de radio privée. Et les autres, on n'en avait surtout pas parlé, puisque c'était quand même, on a occupé un bâtiment. On a coupé le téléphone, on a vraiment occupé. Et à ce moment-là, Simone de Beauvoir a pris les micros des journalistes et a dit, c'est moi qui vais interviewer ces jeunes filles en direct à la radio. Et c'est ainsi que le dimanche matin, les Français se sont réveillés en entendant Simone de Beauvoir, journaliste, interroger sur leurs conditions ces jeunes filles, ce qu'elles réclamaient. Et après chaque interview, elle intervenait pour défendre ces jeunes filles. Ça s'est passé avec des flashs, toutes les demi-heures. Ça a duré toute la matinée du dimanche. Ça a été un moment historique, absolument extraordinaire. Pour vous donner un exemple, la gardienne de mon immeuble, qui ne m'adressait plus la parole depuis le manifeste, elle m'a félicitée. Elle m'a dit « j'ai connu une jeune fille à qui c'est arrivé ». Donc je me suis dit « là, ça commence à bouger ».
Et même votre père, Claudine Monteil, est devenu, alors peut-être involontairement, mais un de vos plus fidèles soutiens, il est devenu votre standardiste, parce qu'il y avait les réunions le dimanche, mais il y avait toutes les manifestations à organiser, il y avait toutes les réunions et toutes les actions à organiser.
Oui, je voudrais rappeler quand même aux générations plus jeunes que la mienne que nous n'avions pas Internet, qu'il n'y avait pas de téléphone portable, qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, que donc nous étions quand même très isolés. Donc le seul téléphone qu'il y avait à la maison, c'était celui sur le bureau de mon père qui quand même faisait ses maths, était un grand mathématicien, et faisait ses mathématiques à la maison. Il ne supportait pas qu'on l'interrompe, parce que ça l'interrompait dans ses réflexions, dans son travail. Mais les jeunes filles du MLF, elles ont très bien su lui parler. Elle l'appelait Jean-Pierre. Il était professeur au Collège de France, mais elle n'en avait rien à faire. Et elle l'appelait Jean-Pierre. Elle lui faisait du charme. Est-ce que ça va les maths aujourd'hui, etc. Et donc, il tombait complètement sous le charme de ces féministes charmantes. Et le soir, quand je rentrais vers minuit, 1h du matin, quand on avait fait des réunions, je trouvais sur la table de la cuisine, tu as eu à telle heure tel coup de fil, il faut que tu fasses ceci, telle heure cela, et à la fin c'était signé ton secrétaire particulier du MLF. Et ma mère était absolument, elle était ébahie.
Est-ce que ces combats que vous avez menés donc, pour la libéralisation de l'avortement, qui ont duré donc jusqu'en 1974 et la loi Veil, est-ce que ces combats, vous les avez menés au sein du MLF ailleurs qu'en France? Je crois que vous, Claudine Monteil, vous êtes allée dans les cliniques américaines entre 74 d'ailleurs et 76. Vous pouvez peut-être nous raconter ce moment où vous avez prononcé une conférence sur les droits des femmes en Europe dans une clinique d'Atlanta et vous étiez justement protégée par des agents de police qui étaient fusillés au poing et scrutant les fenêtres.
Cette expérience dans les cliniques féministes américaines est pour moi la démonstration que rien n'est jamais acquis en ce qui concerne les droits humains et en ce qui concerne les droits des femmes. Je veux dire par là que la première fois que je suis allée dans ces cliniques américaine où pour $20 elles faisaient pendant une journée octroyaient des aides, des conseils médicaux, des analyses médicales à des femmes souvent défavorisées de manière extraordinaire et remarquable dans une ambiance remarquable. C'était une libération par rapport à ce qu'on vivait en France parce que la loi n'avait pas encore changé, l'avortement était tout à fait légal là-bas. Et puis après, un an plus tard ou deux ans plus tard, après l'arrivée de Reagan au pouvoir, enfin je dirais la droite, de toute façon les lobbies anti-avortement étaient très puissants. Et donc les cliniques de ces femmes féministes ont commencé à être plastiquées. Et je suis arrivée à San Diego, la clinique avait été plastiquée dans la nuit. Et comme j'allais ensuite à Atlanta, qui était une des plus grandes cliniques féministe américaine, n'oublions pas qu'il y a une très grande population noire pauvre à Atlanta, eh bien, c'est très simple, je suis arrivée dans la clinique avec les agents du FBI qui étaient armés et je me suis demandé ce que j'avais fait, pourquoi les agents du FBI m'attendaient. En fait, c'était pour nous protéger, nous, les femmes américaines et moi-même, femmes américaines qui étaient avec des bébés, des enfants, des ballons et des peluches, pendant que je racontais le mouvement féministe en Europe. Les agents du FBI étaient devant chaque fenêtre, chaque porte. Ça fait quand même un drôle d'effet.
Vous parlez des mouvements féministes en Europe. Je crois que vous avez aussi, au sein du MLF, aidé les femmes, notamment au Portugal, à acquérir un certain nombre de droits.
Il y a eu des écrivaines portugaises. Bon, vous savez qu'il y avait quand même une dictature au Portugal, la dictature de Salazar. Et ces trois jeunes femmes portugaises ont écrit un livre sur l'amour, le plaisir, la sexualité, et elles ont été arrêtées. Elles ont été arrêtées, et c'est là où nous avons vraiment, il y a eu une solidarité internationale, et nous avons été avec Simone de Beauvoir pour obtenir précisément une autorisation de manifestation, parce que nous voulions manifester devant Notre-Dame. Et vous savez, on ne manifeste pas comme ça devant Notre-Dame. C'est quand même un lieu extrêmement symbolique. Donc nous avons obtenu que ce serait une réunion, une manifestation flambeau. Nous avons choisi les flambeaux symboliquement. Et en réalité, nous avons manifesté devant Notre-Dame, bloqué entièrement Paris. Nous avons bloqué Paris parce que nous l'avons faite à 18h30. Mais il y a eu une manifestation dans plusieurs pays le même jour, ce qui fait que la dictature portugaise a lâché. Elles ont été libérées.
Est-ce que dans ces années-là, Claudine Monteil, vous vous battez également, vous êtes aussi active sur les autres sujets, le viol, l'inceste, les femmes battues, les inégalités de salaire?
Oui, on se bat là-dessus, mais je rappelle quand même que nous n'avons aucun moyen financier, que nous sommes très peu nombreuses, contrairement à ce que l'on croit, nous sommes très peu nombreuses, que la plupart, nous travaillons quand même sur les questions d'avortement et... vraiment, notre priorité, c'est l'avortement. Et j'aurais aimé quand même dire quelques mots sur le procès de Bobigny. Le procès de Bobigny a été un moment tout à fait extraordinaire. Quand Gisèle Halimi est arrivée un dimanche après-midi pour nous raconter que Michel Chevalier, donc la mère de la jeune Marie-Claire qui avait été violée, l'avait été arrêtée, qu'elle allait être dans un procès, qu'on risquait d'être condamnée. La mère de Marie-Claire est une des femmes pour lesquelles j'ai la plus haute admiration, parce qu'elle a élevé seule trois enfants en étant agent de la RATP avec un seul salaire, ce qui n'était pas simple et n'est toujours pas simple. Et elle s'est battue et elle a réussi à retourner les choses, c'est-à-dire elle a dit c'est vous les juges qui êtes accusés de m'obliger à être présente. Enfin, je veux dire par là, c'est je n'ai pas à être condamnée, c'est vous juges, c'est vous la loi française qui devrait être condamnée. Donc elle a fait un avortement clandestin de sa jeune fille, déjà jeune fille violée, Marie-Claire, mineure. L'avortement s'est pas bien passé, le jeune homme était un petit voyou et pour se faire bien voir de la police un jour, il a dénoncé Marie-Claire. Il a dénoncé Marie-Claire à la police et comme c'est une femme sans défense, ils sont arrivés, ils ont arrêté tout le monde et nous avons eu droit à un procès. Cela nous a absolument scandalisés et nous avons donc commencé à préparer le procès avec Gisèle Halimi, chez Simone de Beauvoir, d'abord chez Simone de Beauvoir. Et bien sûr, Gisèle Halimi avait l'expérience des procès que nous n'avions pas. Donc Gisèle nous disait, il faut des personnalités célèbres. Simone de Beauvoir disait, mais il faut aussi des femmes inconnues pour montrer la situation. Donc ça a été beaucoup de discussions. Et je dis franchement, Gisèle Halimi avait raison, bien évidemment. Et elle a fait venir des prix Nobel de médecine, notamment Jacques Monod. Et enfin, elle a vraiment fait un travail remarquable d'inciter des personnes. Et nous l'avons soutenue. Mais pour autant, cela ne faisait pas connaître le procès. Or, notre objectif, c'était qu'on en parle dans les médias quelques jours auparavant. Donc, deux jours avant le premier procès, il y a eu deux procès. Le procès de la jeune fille toute seule, mineure, et puis ensuite le procès de mère et de ses complices. Nous avons organisé une manifestation place de l'Opéra. Celle-là, nous ne l'avons pas déclarée. Nous avons donc organisé une manifestation avec des ballons, des poussettes, et nous avons occupé l'esplanade de l'Opéra. À 18h30. Donc là, on a complètement bloqué la circulation, ce qui était notre objectif avec les panneaux, qu'on en parle. Seulement, ce que nous n'avions pas prévu, c'est qu'ils allaient envoyer des voitures qui allaient foncer sur l'esplanade, des motards, des motos de policiers qui ont commencé à nous cogner dessus. Alors que plusieurs de mes amis avaient des jeunes enfants, ça a été une panique absolument épouvantable, des hurlements. La police nous a poursuivis dans les rues adjacentes. C'était horrible. Donc, ça donnait l'apparence d'un fiasco. Et j'avais tort. J'avais entièrement tort. Parce qu'il y avait un journaliste du Monde, Jean Benoît, qui était présent et qui a fait un article magnifique le lendemain dans Le Monde, encadré, dénonçant la police par rapport à cette histoire, par rapport à l'histoire de Marie-Claire, de sa mère. Ce qui fait qu'en 24 heures, grâce à l'attitude de la police, le procès de Bobigny est devenu le procès des femmes françaises et de la lutte contre l'injustice en France et de l'avortement. Ce qui fait que quand Gisèle Halimi est arrivée au procès, elle était une star entourée, elle était déjà une star, mais elle était encore plus une star, entourée de journalistes du monde entier. Et quand nous sommes arrivés ensuite pour le procès de la mère, celui où nous pouvions, nous, assister, on ne voulait pas nous laisser entrer. Et à ce moment-là, il y avait un jeune policier face à moi, qui avait à peu près mon âge, n'oublions pas, j'ai 21 ans, hein, qui me dit « Allez, passez, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est face à vous qu'on est contre vous. Nous aussi, on a des femmes dans notre vie. » Et là, je me suis dit « Ah, ça commence à bouger. »
Est-ce que vous avez des regrets, Claudine Monteil?
Sur ce moment-là?
Pas sur ce moment, non, sur ces années-là, sur le mouvement lui-même.
Non, je n'ai pas de regrets, parce que ce que je trouve extraordinaire de ces années-là, c'est l'énergie. Nous étions débordants d'énergie et d'imagination. C'est-à-dire que nous avons réalisé les rêves de mai 68. C'est l'imagination au pouvoir, parce que, excusez-moi, mais ce que nous avons fait, c'est de l'imagination. Alors, on croit que c'était beau, que tout était beau, était magnifique, mais enfin, on se disputait beaucoup quand même, hein. On discutait énormément, ça durait la nuit, pour prendre une décision, être d'accord entre nous, etc. Mais non, je ne regrette pas. Je trouve que nous avons accompli des pas de géant avec très peu de moyens. Et c'est pour ça que je témoigne, pour montrer aux jeunes qu'il ne faut rien lâcher, et qu'il ne faut pas avoir peur de son imagination, de son talent. Vous avez tous du talent, tous et toutes du talent. Et si je peux me permettre, une des grandes victoires du MLF, je le dis pour les générations actuelles et futures, c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire que il faut lutter entre générations et ne pas mépriser soit la nouvelle génération, soit l'ancienne génération. Pourquoi nous avons réussi aussi ? Quand j'étais chez Simone de Beauvoir, elle avait 62 ans quand j'en avais 20, Gisèle Halimi en avait 40, elles ont été formidables. Nous étions trois générations simplement entre trois femmes. Et jamais elles ne m'ont fait sentir que j'étais jeune, alors que j'étais jeune et que je n'avais pas leur expérience. Mais jamais elles ne me l'ont fait sentir. C'est-à-dire que véritablement, les droits des femmes, il faut se battre entre générations.
Entre générations et entre sexes, est-ce que vous associez les hommes à ce combat ou est-ce
alors,
que
je
c'est
voudrais
un combat de femmes
sur
pour
associer
les femmes
les hommes sur ce combat. Cela dépend du moment historique. C'est-à-dire que nous, qui avons fait le MLF, nous étions des anciennes de 68, disons-le franchement, nous étions sur la lancée de mai 68. Bon. Nous avons été traités comme plus bas que terre par tous les militants hommes, soi-disant de gauche ou d'extrême gauche, entre 69 et 70, 68 également aussi, mais enfin disons 69 et 70. La plus grande qualité que nous ayons eue, c'est de refuser les hommes au MLF en 70, je dis bien en 1970. Je ne dis pas pour aujourd'hui, parce que dès qu'il y avait un homme dans la salle, il prenait le pouvoir, il donnait, il commentait, il faisait le donneur de leçons, c'était terminé. Donc, notre plus grande force, c'est que nous n'avions plus de regard inquisiteur, centré sur le monde, l'homme qui parle, etc. C'est 70. Nous avons eu entièrement raison de continuer à le faire. Aujourd'hui, nous avons quelques hommes qui nous soutiennent et nous les acceptons. Bien sûr, nous avons des hommes qui sont solidaires. Et ce qui me fait plaisir, ce sont des hommes jeunes aussi, qui parlent différemment, comme par exemple dans Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui, il y a le portrait de Laurent, qui est un homme jeune et qui regarde le monde de manière beaucoup plus égalitaire, parce qu'il a vu sa mère aussi se battre toute seule, l'élever seule parce qu'elle a été veuve très jeune. Donc, véritablement, je fais confiance à la jeune génération et je m'entends très bien avec les jeunes hommes. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, que le Haut Conseil à l'égalité a publié un rapport. En janvier 2023, qui est très inquiétant sur les jeunes hommes. Mais moi, je dois dire que je rencontre tout le temps des jeunes hommes qui viennent, par exemple, m'interviewer, des lycéens qui veulent m'interviewer pour que je leur raconte, et qui sont à l'écoute, et qui sont tout à fait respectueux et concernés par leurs sœurs, leurs mères, leurs tantes, et qui veulent avoir des filles aussi. Et le grand espoir, c'est quand même les hommes qui ont des filles. Parce qu'ils ont envie que leurs filles réussissent, qu'elles réussissent leur vie, qu'elles aient la vie de leur choix. Donc, il faut beaucoup travailler les hommes avec leurs filles.
Merci Claudine Monteil. On se retrouve demain soir. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Julien Girard, réalisation Séverine Cassard. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.